The takeover of Credit Suisse by UBS is the best solution for restoring the confidence that has been lacking in financial markets recently.
Une Russie utile à la Chine à l'heure où les relations avec les États-Unis sont en chute libre.
Bonjour, l'effondrement de Crédit Suisse est une tache sur la réputation de la Suisse pour la stabilité. Ce titre, parmi les nombreux autres que les médias internationaux consacrent ce matin à la disparition de la deuxième banque de Suisse. Le président chinois Xi Jinping en visite à Moscou chez son homologue Vladimir Poutine. Il célèbre une alliance de raison. Reportage dans une ville frontière qui symbolise toute l'ambiguïté de la relation sino-russe. Et puis cet arrêt, Gorbani ne veut plus se taire. Celle qui est devenue activiste pour la liberté en Iran nous donne des nouvelles de son pays.
Tout un monde, Éric Guevara-Frey.
Crédit Suisse rejoint Swissair au cimetière des icônes déchues de l'économie suisse. La deuxième banque du pays absorbée par son rival UBS pour la somme de 3 milliards de francs. Une reprise orchestrée par le Conseil fédéral et la Banque nationale suisse. L'objectif était d'empêcher la faillite d'une banque systémique, une contagion au système financier global et puis une crise comparable à celle de 2008. Bonjour Patrick Chaboudet.
Bonjour Eric.
C'est une nouvelle très largement analysée, commentée par les médias internationaux.
Qui ne sont qu'à moitié rassurés par ce mariage forcé. Crédit Suisse en pleine déconfiture. Future doit se faire sauver par son rival, constate Der Spiegel. Fin dégradante d'une descente aux enfers et peut-être le prélude à une crise encore plus grave. En tout cas pour Die Welt, l'équation banque suisse égale critère de qualité, c'est désormais du passé. Pour la Repubblica, la Suisse n'a pas vraiment de quoi célébrer ce mariage « réparateur » entre guillemets sur fond de cupidité et de fuite de capitaux. Une fusion pour sauver la place financière helvétique, note de son côté Le Monde. Au pays des décisions consensuelles et de la lenteur qui en découle, on sait parfois se montrer brutal et rapide, mais il faut vraiment que l'heure soit grave, ironise Le Quotidien.
3 milliards pour ce rachat, c'est beaucoup moins que la valeur boursière de Crédit Suisse, pourtant très chahutée ces derniers jours.
Oui, effectivement, et le gouvernement suisse a fait pratiquement un cadeau de l'un des fleurons de la finance du pays, estime El Mundo. La fin humiliante de Crédit Suisse est une aubaine pour UBS, selon le New York Times, qui consolide sa position et peut à la fois augmenter son activité principale de gestion de fortune et puis gagner la division suisse de banque de détail de Crédit Suisse, qui est très apprécié. Et ce matin, à Hong Kong et à Singapour, les grandes places financières asiatiques, le South China Morning Post et le Straits Times rassuraient les clients de Crédit Suisse. Oui, les filiales restent bien ouvertes et les comptes sont assurés.
Alors, le Financial Times était toujours très en tête sur cette affaire de Crédit Suisse avec beaucoup d'informations. Quelle analyse on fait dans cette presse économique anglo-saxonne ?
Eh bien, elle est diverse. Pour le Wall Street Journal, ce mariage forcé est une chose qu'UBS n'a jamais voulu, car le Crédit Suisse est plombé par une liste de scandales et de problèmes, et sa grande banque d'investissement est à l'opposé du modèle qu'UBS façonne depuis des années. Le défi, eh bien, ce sera de préserver la santé de cette union, estime pour sa part The Economist. Les actifs combinés des deux banques représentent environ deux fois le PIB de la Suisse. Et en cas de nouveaux problèmes, la solution d'hier, la fusion, ne sera tout simplement pas possible parce que la nouvelle institution sera tout simplement trop grande pour une telle opération. Et puis pour The Financial Times, effectivement très bien informé de tous les détails de cette affaire, les autorités suisses n'avaient pas vraiment le choix. Ce sont les propres clients de Crédit Suisse qui ont scellé son sort, pas les investisseurs. Ils ont pris leur décision, ont retiré leur argent. La fusion avec UBS était la solution évidente que tout le monde avait en tête, conclut Quotidien Financier.
Merci Patrick Chaboudet.
Vous ne vous intéressez peut-être pas à la géopolitique. Vous avez tort. Elle s'intéresse de plus en plus à vous.
Le président chinois Xi Jinping arrive à Moscou aujourd'hui, une visite d'État de 3 jours à son homologue Vladimir Poutine. La première rencontre à ce niveau pour le président russe depuis son inculpation pour crime de guerre par la Cour pénale internationale. Une visite placée sous le signe de la paix, si l'on en croit les tribunes croisées publiées dans leur presse nationale respective par les deux chefs d'État. Le plan de paix présenté par la Chine a été reçu avec scepticisme en Occident. Officiellement neutre, Pékin soutient diplomatiquement la Russie, avec laquelle il a conclu un partenariat sans limite l'année dernière. En fait, de partenariat sans limite, c'est un mariage de raison entre deux anciens rivaux. Une ville, en Chine, aux portes de la Sibérie, symbolise l'ambiguïté des relations sino-russes. Michael Pecker nous y emmène.
Rose, verte ou jaune pastel, les façades qui bordent la rue centrale de Heihe s'illuminent au contact des premiers rayons du jour. Tantôt classique, tantôt baroque, le mélange architectural trahit l'influence du grand voisin russe. Une illusion occidentale estompée peu à peu par les nuées de vapeur qui s'échappent des paniers en bambou. Les baozi, petits pains traditionnels, s'arrachent. Sous leurs enseignes en caractère chinois, les étals du marché se succèdent malgré le froid. Perdu aux confins des plaines glacées du Heilongjiang, province chinoise la plus septentrionale, Hehe est plus proche de la Russie que du reste de la Chine. La ville de Blagoveshchensk est à moins d'un kilomètre. Pas d'eau, russe et chinois s'observent de part et d'autre de la frontière.
Regardez cette rivière, ces deux rives qui séparent nos deux villes jumelles. D'ici, on voit un peu de leur vie. On se demande à quoi elle peut bien ressembler. J'aime venir ici observer les bâtiments d'en face. Des bâtiments russes très jolis. Ils sont à 700 mètres à peine. Regardez, on voit même les gens se promener quand il fait un temps clair, comme aujourd'hui. 700 mètres, c'est si proche, mais aussi si loin. C'est particulier comme sensation. Nous aimons venir ici observer de loin la vie dans ce grand pays.
Un grand pays avec lequel la Chine a longtemps entretenu une relation houleuse. D'innombrables conflits ont émaillé l'histoire le long de ce fleuve frontière. Situé en périphérie de Hehe, un musée retrace cette histoire mouvementée. Interdite aux citoyens russes, l'exposition multiplie les images et reconstitutions sanglantes. Exécution sommaire par les Cosaques, enfants noyés dans le fleuve Amour, femmes violées sur les berges.
L'histoire, c'est compliqué. Quand j'ai appris ce qui s'était passé et que j'ai vu ces images, j'ai ressenti de la colère, une très forte colère. On est patriote, tout le monde aime son pays, non? Les gens d'ici ont été terrorisés, malmenés par les Russes. C'était tellement cruel, on ne peut pas oublier, ça me met vraiment en colère.
Ne pas oublier pour se rappeler la nécessité d'être fort. Un message s'affiche à la sortie du musée. Pour éviter un tel sort, la Chine doit affirmer sa puissance.
Il faut aller de l'avant, il faut regarder vers l'avenir, c'est le seul moyen d'avancer. À l'époque, la Chine n'était pas la Chine communiste, c'était encore l'Empire Qing. Nous étions faibles, exploités par les puissances étrangères. Mais maintenant, nous sommes forts, nous ne laisserons plus jamais cela se reproduire. On doit cultiver cette force, c'est le seul moyen pour avoir la paix. Et maintenant, nos deux pays sont proches, nos territoires sont si proches. Aller de l'avant ensemble, c'est le seul moyen.
Le nouveau pont, il est à quelques kilomètres à l'est. Ce lien resserre notre entente. Les visites seront facilitées, les échanges commerciaux aussi, évidemment. C'est vraiment un symbole d'amitié entre nos deux pays.
Inauguré en juin dernier, un pont autoroutier amarre désormais la Russie à la Chine. Les sanctions occidentales ont confirmé le pivot vers l'est de Moscou. Les échanges commerciaux entre les deux partenaires devraient croître drastiquement cette année.
Avant, ils faisaient la queue devant l'entrée. Ils attendaient l'ouverture du magasin et d'un coup, ils inondaient les rayons. Maintenant, il n'y a personne.
Les Russes, Madame Xu les attend à bras ouverts. À l'image des autres commerçants chinois de la zone franche Hehe-Blagoveshchensk, elle espère voir le pont dynamiser ses affaires, sinistrées par 3 années de Covid.
La relation entre les deux rives ne peut que s'améliorer. Et au vu de la situation actuelle, avec cette guerre, on a conscience de devoir se soutenir, y compris au niveau commercial. La Chine dépend des ressources naturelles russes et la Russie dépend des produits chinois. Les biens de nécessité disponibles aux gens là-bas, de l'autre côté de la frontière, proviennent tous de Chine.
Derrière le comptoir, son mari exprime encore plus ouvertement son soutien.
Poutine a raison, qu'il leur botte le derrière. Je soutiens Poutine. Ce n'est pas lui qui a commencé la guerre. L'Ukraine et les États-Unis ont provoqué le conflit. Ça n'a rien à voir avec Poutine. Lui aussi ne veut qu'une chose, la paix, le bien-être du peuple. Sa réaction est justifiée. Même nous, si vous nous provoquez sans arrêt, on va se fâcher. C'est comme ça. Poutine, je le soutiens.
Un avis partagé par de nombreux Chinois soumis à une propagande pro-russe intensive. Contrastante avec leur posture officiellement neutre à l'international, à domicile, les autorités chinoises ont choisi leur camp. Et pour cause, dans le conflit ukrainien, Pékin tire pour l'heure son épingle du jeu. Alexander Gabouef analyse les relations sino-russes à la Fondation Carnegie pour la paix.
La Chine gagne premièrement un voisin amical au nord. Ce qui est bénéfique pour Pékin, qui tient à garantir la paix et la stabilité le long de sa frontière nord pour pouvoir concentrer ses ressources militaires ailleurs. Deuxièmement, la Chine gagne un régime qui partage des valeurs similaires et qui la soutient systématiquement. Un régime qui se charge de montrer les dents et de bousculer la scène internationale, permettant à la Chine de se contenter de le regarder faire de loin. Troisièmement, enfin, la Russie est une source formidable de ressources, de biens et de matériel militaire moderne. La Chine dépend encore des missiles solaires ou des avions de chasse russes, du matériel crucial à une potentielle intervention autour de Taïwan ou dans le domaine maritime.
Une Russie utile à la Chine à l'heure où les relations avec les États-Unis sont en chute libre, au grand dam de nombreux dirigeants européens qui espèrent une médiation de Xi Jinping. Mais pourquoi, au fond, n'aurait-il pas intérêt à afficher son influence en parvenant à raisonner Poutine pour mettre fin au conflit ?
Le problème, c'est que les dirigeants chinois sont convaincus que la relation avec les États-Unis est, quoi que fasse la Chine, vouée à se péjorer davantage à l'avenir, à moins que les autorités chinoises changent de trajectoire et s'adaptent aux préférences des Américains. Rien ne peut améliorer suffisamment la relation. Même si Pékin lâche Vladimir Poutine, les dirigeants chinois s'attendent à ce que l'Occident capitalise, disent « Bravo Xi Jinping, bon garçon, tu nous as aidé à neutraliser ce terrible méchant. Maintenant, parlons du Xinjiang, parlons de Taïwan. » Toutes ces questions surgiront. La Chine est donc heureuse de jouer un rôle ambigu parce que la Russie tombe rapidement et sûrement dans la poche de Pékin.
Les États-Unis ne cessent de nous provoquer autour de Taïwan. Comment voulez-vous qu'on reste calme? Quand le Japon a lancé la crise autour des îles Senkaku, notre haine du Japon a été réveillée. Nous, les Chinois, on déteste vraiment les Japonais. À l'époque, il y avait des appels à aller se battre pour ces îles. Nous, les Chinois, on ne craint pas la mort. J'ai récemment parlé avec des amis. Face aux États-Unis, c'est pareil. Nous, gens ordinaires, on est prêts à se battre. On n'a pas peur de mourir.
Autrefois ennemis, aujourd'hui partenaires et amis, les relations entre la Chine et la Russie sont à l'image du tracé du fleuve Amour, sinueuse. Des relations définies avant tout par une opposition commune aux États-Unis, source de réchauffement le long de la frontière gelée.
Reportage de Michael Pecker, notre correspondant en Chine.
Des milliers de personnes défient le régime en brandissant les foulards, en se coupant les cheveux, comme on brise des chaînes.
Nous, les femmes iraniennes, ce qu'on veut, c'est la liberté. Liberté, liberté, liberté.
Le régime des mollahs ne desserre pas son emprise sur l'Iran. Téhéran réprime toujours aussi durement les manifestations déclenchées en septembre dernier par la mort en détention de Mahsa Amini. Des milliers de personnes sont toujours en prison et des détenus régulièrement exécutés. Les informations ne sortent que difficilement du pays. De plus en plus d'Iraniens et d'Iraniennes de la diaspora se mobilisent pour que les gouvernements en Europe et aux États-Unis fassent pression sur la République islamique. Francesca Argirofo.
Oui, les forces s'organisent. Il y a bien sûr des personnalités engagées depuis longtemps. Et puis, il y a aussi de nombreuses Iraniennes, Iraniens à l'étranger, qui sont devenus activistes après la mort de la jeune Kurde et des manifestations qui ont suivi.
La révolution commence par la révolution dans les têtes. C'est un long procès. C'est pareil pour moi et plein d'autres Iraniens en diaspora.
Settareh Ghorbani vit à Paris depuis de longues années. Elle était l'invitée du Festival international du film pour les droits humains à Genève. Elle explique ce qui l'a poussée à devenir l'un des visages de cette nouvelle opposition.
Pour moi, c'était que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée et je ne pouvais plus supporter, même dehors du pays. Chaque matin, on se lève et toujours il y a des mauvaises nouvelles. Il y a quelqu'un qui était exécuté, il y a quelqu'un qui est emprisonné et ça finit pas. Et nous, entre nous, on disait toujours, c'est dur d'être iranien aujourd'hui. Parce que même si on n'est pas en Iran, même si on est si loin géographiquement, ça nous concerne tout ce qui se passe là-bas.
Settareh a quitté l'Iran pour connaître la liberté, mais aujourd'hui, elle ne tolère plus que ses cousins, cousines, mais surtout la jeune génération, ne puissent pas mener une vie normale.
Elle est donc devenue activiste en rejoignant un groupe en octobre dernier.
Oui, lors d'une réunion à Bruxelles, ce groupe s'appelle Setaban, Solidarité pour la liberté en Iran, et depuis, il ne fait que grandir.
C'est pas la question de créer une partie politique, parce que entre nous, il y a des gauchistes, il y a des droits, il y a un peu tout au niveau de... C'est pas ça la question, c'est que comment on peut aider les gens et comment on peut aider pour construire un État démocratique qui respecte la démocratie, la liberté et le sécularisme en Iran. Vous voyez? Et quand j'ai vu ce potentiel, j'ai dit, là, j'ai trouvé ma place. Je suis prête à payer pour ça.
Cela veut dire aussi prendre des risques. L'association mène des actions très concrètes en Iran en envoyant des kits médicaux de base pour que les manifestants puissent se soigner eux-mêmes et éviter les hôpitaux trop dangereux. Elle a aussi mis sur pied une ligne sécurisée via VPN utilisée par des médecins qui dispensent leurs conseils 24 heures sur 24.
Est-ce que ces activistes de la nouvelle génération jugent que le régime des mollahs montre des signes de faiblesse face à la contestation, qu'ils pourraient faire des concessions ?
En tout cas, Eric, c'est pas ce que pense Setare Gorbani. La répression est toujours aussi féroce, même si elle prend parfois d'autres formes.
Il y a des caméras partout, dans les rues, je sais pas, partout. Et de plus en plus, on voit les femmes qui portent plus le voile. Et qu'est-ce qu'ils font ? Après, ils ont votre image, votre film. Ils envoient les amendes à la maison, chez vous, direct. Donc, si on voit pas la police d'or, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ils vont essayer de passer une loi que si vous ne portez pas le voile, c'est un crime. Ça devient encore pire.
Encore pire. C'est aussi l'avis de Neda, appelons-la comme ça. Cette enseignante a quitté l'Iran il y a 5 ans. Elle veut garder l'anonymat. Elle raconte le choc qu'a causé la vague d'empoisonnement d'adolescentes par des gaz toxiques dans des centaines d'écoles du pays.
La première fois qu'on en a entendu parler, c'était en novembre dernier dans la province de Qom, qui est une des villes les plus religieuses d'Iran. On a signalé des empoisonnements dans des écoles. Des étudiantes se sentaient nauséeuses, malades. Elles ont dû être hospitalisées. Et depuis, il y a eu environ 10 000 adolescentes dans 28 provinces du pays qui ont eu les mêmes symptômes et qui ont dû aller à l'hôpital. Les écoles sont fermées actuellement à cause du nouvel an iranien. Mais je ne crois pas que ces empoisonnements vont cesser.
Le régime a bien arrêté quelques personnes et voulu faire croire qu'il s'agissait d'un nouveau complot fomenté par l'ennemi. Mais selon Neda, la population n'y croit pas.
Beaucoup de personnes pensent que ces attaques sont le fait du gouvernement. Les jeunes filles dans les lycées, à l'université, ont largement participé aux manifestations. Le guide suprême, Ali Khamenei, a déclaré une fois qu'elle devait être punie pour cela. Et nous pensons que c'est une partie de cette punition. D'autre part, c'est aussi une manière pour les autorités de semer la peur, la terreur, pour dissuader la population de participer aux contestations. Enfin, ce régime veut montrer au monde qu'il est capable d'empoisonner des enfants et qu'il ne craint rien.
Et malgré tout, Francesca, les manifestations continuent, même si elles semblent ne plus prendre d'ampleur. Est-ce que les manifestants vont finir par s'épuiser ?
Eh bien, Setare Gorbani croit vraiment qu'une révolution est en marche. Mais bien sûr, il est difficile de descendre dans la rue quand la situation économique est aussi mauvaise. La population est épuisée, sans ressources, les gens n'ont rien. Et sans pression extérieure, dit-elle, rien ne va vraiment bouger.
Comment on peut mettre la pression sur le gouvernement, l'État islamique en Iran ? C'est plutôt de dehors du pays, surtout en Europe ou États-Unis. Ils ont commencé à nous écouter. Déjà, ils ne recevaient pas. Donc, première chose. Il y a la réception. Après, ils commencent à écouter à petit, même s'ils n'ont pas envie.
Plusieurs rencontres avec des parlementaires, des politiciens ont déjà eu lieu pour relayer les demandes des manifestants. Il ne faut pas négocier avec le régime, dit Setare, et surtout pas envoyer des messages qui peuvent être utilisés par les autorités, comme l'a fait récemment l'ambassadrice suisse en Iran.
Elle est allée à Rome, qui est la ville très religieuse en Iran, et elle s'habille tout noir. Même aujourd'hui, je suis iranienne, si je rentre dans mon pays, je ne m'habille pas comme ça. On n'accepte pas, ce n'est pas justifiable.
À la question de savoir si elle a peur, Setare Gorbani répond par la négative. Ce régime a gouverné par la terreur pendant plus de 4 décennies, dit-elle. Il a déjà gâché une grande partie de sa vie, de sa jeunesse. Elle veut parler aujourd'hui haut et fort.
Merci Francesca Ardiroffo.
Tout un monde.
Il y a 20 ans, aujourd'hui, les États-Unis envahissaient l'Irak pour faire tomber le régime de Saddam Hussein. Une guerre qui allait changer une bonne partie du monde. Rapidement, Fallujah est devenu un bastion insurgé, assiégé 2 fois. En 2004, l'armée américaine y a engagé ses combats les plus importants depuis la guerre du Vietnam. Les bombardements n'ont pas épargné les civils qui ont vu s'abattre sur eux des armes au phosphore blanc, véritable bombe incendiaire, des missiles et des obus à l'uranium appauvri. Même si l'armée américaine le nie, tout porte à croire que ces armes ont eu des conséquences terribles pour la population. À Fallujah, les cas de cancer ont très largement augmenté. Près d'un enfant sur 5 naît avec des malformations congénitales. Un tabou en Irak où les médias internationaux peinent à obtenir l'autorisation de se rendre sur place. Benoît Drevet a pu aller discrètement à Fallujah.
Dans son appartement à Fallujah, le lanceur d'alerte fait défiler les photos d'enfants nés malformés. L'horreur se passe de description à tel point qu'ils sont surnommés les bébés monstres de Fallujah. Abu Ahmed, son nom a été changé, collecte depuis des années des données et des preuves d'un potentiel crime de guerre de l'armée américaine en Irak. Ces mystérieuses malformations congénitales sont suspectées de provenir de l'uranium appauvri utilisé dans les munitions larguées sur la ville située à seulement une cinquantaine de kilomètres de Bagdad. Le nombre de cas a explosé dans les mois qui ont suivi les deux batailles de Fallujah en 2004, en plein triangle sunnite rebelle. Parmi les civils, Abu Ahmed se retrouve piégé sous un déluge d'armes aux effets radioactifs. Depuis, il dit avoir perdu 6 bébés à la naissance et 3 de ses enfants ont des malformations.
J'ai reçu des menaces, comme d'autres familles qui ont reçu la consigne de ne pas dire ce qui était arrivé à leurs enfants à cause des bombardements américains. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les preuves que nous avons collectées, ni aller en justice pour demander des compensations, ni parler aux médias, sinon nous risquons d'être poursuivis et arrêtés par les autorités irakiennes, comme auparavant par les Américains.
Majdi, 16 ans, est né en 2006 à Fallujah et vit désormais à Bagdad dans un appartement où son père accablé nous reçoit. Né avec le bas de sa colonne vertébrale hors de son corps, il a pu bénéficier d'une chirurgie à sa naissance qui l'a sauvé. Il souffre d'insuffisance rénale et d'incontinence. Il doit porter des couches. À l'école, ses camarades se moquent de lui.
Ma situation est devenue une phobie pour moi. J'aimerais pouvoir être une personne normale. Je ne peux pas m'intégrer parmi les élèves et j'aimerais obtenir de l'aide pour me rétablir, pouvoir vivre normalement et sociabiliser avec mes amis à l'école.
Resté bloqué à Fallujah pendant les deux grandes batailles de 2004, son oncle Mustapha, 30 ans, est lui aussi désemparé. Il y a seulement un an, il a perdu son premier bébé, sévèrement malformé. C'est dans une voiture garée le long de l'artère principale de Fallujah qu'il témoigne.
Au bout de 5 mois de grossesse, les médecins ont su, grâce à l'échographie, qu'il lui manquerait la partie inférieure de son corps. Ils ont conseillé à ma femme d'avorter, mais nous avons décidé de poursuivre la grossesse jusqu'à son terme, en pensant qu'il aurait une chance de s'en sortir. Malheureusement, il n'a pas survécu à sa naissance.
L'hôpital de Fallujah recense de nombreux cas similaires depuis les mois qui ont suivi les intenses bombardements au phosphore blanc et à l'uranium appauvri en 2004. D'après de nouvelles données obtenues de manière confidentielle, au moins 3348 bébés y sont nés avec de graves malformations entre 2010 et 2022, dont 419 rien qu'en 2021, record sur la période, malgré un nombre de naissances en chute libre. Certains docteurs conseillent désormais au couple de Fallujah de ne plus avoir d'enfants. Vendeur de kebab de 29 ans, Mustapha, lui, n'a pas eu le choix.
Ça fait 6 ans que j'essaie d'avoir un bébé avec ma femme. Les médecins pensent que c'est à cause de ce qu'on appelle ici le virus américain.
Et ce n'est pas tout. Les cas de cancer ont également évolué en forte hausse avant d'atteindre un palier depuis quelques années, malgré un manque de moyens de surveillance de ces cas, selon Taleb Hussein, spécialiste de chirurgie générale à Ramadi.
En 2010, nous avons récupéré des échantillons dans les maisons, l'eau, le sol, sur les cheveux ou les dents. Et nous les avons envoyés au laboratoire du docteur Malak Hamdan à Londres. Ils ont examiné ça et ont trouvé qu'il y avait une anormale concentration d'uranium appauvri. Et nous avons conclu que c'était la cause cardinale des malformations et anomalies congénitales et des cancers.
Durant la guerre en Irak de 2003, au moins 180 000 munitions à uranium appauvri auraient contaminé plus de 1 000 sites. Controversé, le débat sur les effets de ces munitions pourrait connaître une avancée majeure fin 2024. La question a été inscrite à l'ordre du jour provisoire de la 79e session de débat des Nations Unies.
Le reportage de Benoît Drevet en Irak. Et ce reportage, comme tous les autres qu'on diffuse dans tout un monde, vous pouvez les écouter, les réécouter, les podcaster sur Play RTS d'abord. Je suis sur Apple Podcast ou Spotify, pourquoi pas.
Vous ne vous intéressez peut-être pas à la géopolitique. Vous avez tort.
Elle s'intéresse de plus en plus à vous.